VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mardi 17 mai 2016. Au sommaire ce soir...
Célébration de la prise du pouvoir par Laurent Désiré Kabila en RDC. Le docteur Mukwege appelle à un changement radical dans le pays et dénonce les massacres à répétition dans l'Est congolais.
Un reportage, la lutte contre la corruption au Cameroun.
Il peut y avoir des règlements de comptes politiques, mais nous pensons quand même qu'il est bon que les Camerounais changent d'attitude.
Au Nigeria, la menace d'une grève massive contre l'augmentation des prix du carburant fera-t-elle bouger les négociations entre Abuja et les syndicats ?
La subvention que donnait le gouvernement aux revendeurs de pétrole, ça ne bouchait pas le trou que le gouvernement voulait boucher et ça tombait dans la poche des fraudeurs.
En Libye, le gouvernement d'Union nationale réclame une meilleure puissance de feu pour combattre les djihadistes.
Nous ferons aussi le point sur la réunion de Vienne sur la Syrie.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
République démocratique du Congo, le célèbre chirurgien Denis Mukwege a appelé à un changement radical dans son pays le jour de la célébration de la prise du pouvoir par Laurent Désiré Kabila, le père de l'actuel chef de l'État. Idriss Fall.
Pour le chirurgien Denis Mukwege, il faut un changement radical de l'actuel système parce que les crimes et barbaries qui sévissent dans l'est de la RDC depuis 20 ans renaissent avec une nouvelle intensité. Depuis plusieurs années, le docteur Mukwege aide les femmes victimes de viols. D'ailleurs, un film intitulé « L'homme qui répare les femmes » est consacré au directeur de l'hôpital Panzi de Bukavu. Dans son communiqué, il décrit des femmes enceintes, éventrées, des bébés mutilés, des êtres humains ligotés et égorgés à l'arme blanche, comme pour dire « trop, c'est trop ». À la mi-mars, le docteur Mukwege avait accusé les autorités de faire des manœuvres pour retarder les élections. Le Conseil constitutionnel vient d'autoriser le président Joseph Kabila à rester au pouvoir si des élections ne sont pas organisées d'ici le 19 décembre. Cet arrêt a déchaîné une levée de boucliers de l'opposition qui appelle à manifester le 26 mai dans ce vaste pays.
Mauritanie, la justice a ordonné la remise en liberté immédiate de militants anti-esclavagistes. Il s'agit de Biram Daoud Abeid et Ibrahim Ould Bilal. Ils avaient été condamnés à 2 ans de prison ferme pour appartenance à une organisation non reconnue et de rébellion contre la force publique. Mais aujourd'hui, la Cour suprême a requalifié les faits en attroupement maintenu après les premières sommations. Un délit passible d'un an d'emprisonnement maximum, selon leur avocat. Nous y reviendrons en magazine.
Côte d'Ivoire, la ministre de la Cohésion sociale, Marie Toukoné, se dit confiante quant au retour définitif de 11 000 exilés pro-Gbagbo. Ils sont installés au Ghana depuis la crise post-électorale de 2010-2011.
Funérailles nationales au Burundi. L'ancien président burundais Jean-Baptiste Bagaza a été inhumé aujourd'hui dans sa propriété de Bujumbura. Considéré comme le bâtisseur du Burundi moderne, il est décédé la semaine passée dans un hôpital de Bruxelles.
En Ouganda, le président Yoweri Museveni a promu son fils au grade de général 2 étoiles. Ceci renforce les spéculations sur son éventuel successeur à la tête de l'État. Eric Manirakiza.
Muhoozi Kainerugaba, devenu général 2 étoiles, est aussi commandant en chef des forces spéciales de l'Ouganda. C'est une unité d'élite au sein de l'armée régulière, particulièrement en charge de la protection du président et des hauts responsables du gouvernement. Cette ascension fulgurante de Muhoozi, la consolidation de son pouvoir dans l'armée et l'influence qu'il exerce maintenant ne font que renforcer des spéculations persistantes au fil des années qu'il pourrait succéder à son père à la tête du pays. Mais le président Museveni a toujours nié cette volonté, arguant que l'Ouganda n'est pas une monarchie. Malgré ses réalisations sur le plan des réformes, Yoweri Museveni est vu comme un véritable dictateur par l'Occident. Son principal opposant et rival, Kizza Besigye, qui considère avoir gagné la dernière présidentielle de février et s'autoproclamé chef de l'État, a été inculpé pour trahison.
Poursuite à Minneapolis, dans le Minnesota, du procès de 3 Somaliens américains accusés de complot pour se joindre au groupe terroriste État islamique. Les précisions d'Idrissa Seloudia.
Les trois hommes, Mohamed Farah, 22 ans, Gouled Oumar, 21 ans, et Abderrahman Daoud, 22 ans, ont plaidé non coupables. Ils risquent une peine de 15 ans de prison, voire la perpétuité pour avoir, selon l'accusation, comploté en vue de commettre des meurtres à l'étranger. La communauté somalie de Minneapolis a tenu à rappeler que l'on ne fait pas ici son procès et que la justice américaine considère les trois jeunes innocents jusqu'à leur condamnation. Les prévenus auraient eu plusieurs réunions entre mars 2014 et 2015 pour décider du meilleur moyen de se rendre en Syrie. Mais ils ont été interceptés par les autorités avant qu'ils ne puissent prendre l'avion.
Échange de coups de poing à l'Assemblée sud-africaine. Les députés du parti de l'opposant Julius Malema, expulsés de force de l'hémicycle, se sont affrontés avec des membres de la sécurité du Parlement. Ils réclamaient le départ du président Jacob Zuma.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Libye, le gouvernement d'Union nationale a réclamé aujourd'hui des avions de chasse et des hélicoptères en se félicitant du soutien de la communauté internationale à un assouplissement de l'embargo sur les ventes d'armes afin de mieux lutter contre les djihadistes. Hier à Vienne, les grandes puissances et pays voisins de la Libye ont soutenu le réarmement du gouvernement d'Union basé à Tripoli et qui tente d'asseoir son autorité dans un pays miné par les divisions et la menace djihadiste.
La paix en Syrie était ce mardi à l'ordre du jour d'une réunion internationale à Vienne. La rencontre s'est terminée sans date de reprise des pourparlers de paix intersyriens, mais les grandes puissances ont promis de travailler à l'établissement d'un cessez-le-feu durable. Nanit Talani pour les détails.
Trois objectifs étaient au centre des discussions de Vienne sur la Syrie. Consolider la cessation des hostilités, garantir un accès humanitaire dans tout le pays et accélérer la transition politique. C'est encore et toujours sur ce dernier point que les discussions achoppent. La feuille de route des négociateurs prévoit la mise en route au 1er août d'un organe syrien de transition politique prévu par la résolution de l'ONU. Mais cette échéance paraît de plus en plus illusoire à de nombreux observateurs. Pour le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, il n'y a pas d'avenir durable pour la Syrie avec Assad. Selon un haut responsable du département d'État à Vienne, la coalition de l'opposition syrienne s'est montrée plus ouverte que le régime de Damas, qui bénéficie du soutien politique, militaire et financier de la Russie et l'Iran, lui permettant de se maintenir et de ne pas entrer en discussion.
Au moins 50 combattants et 2 civils ont été tués ce mardi dans des affrontements entre groupes rebelles à l'est de Damas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme cité par l'AFP. Les combats faisant rage depuis environ 3 semaines dans la Ghouta orientale, contrôlée par plusieurs groupes rebelles, ont fait plus de 500 morts, dont une dizaine de civils, a précisé le responsable de l'ONG basée à Londres, Rami Abdelrahman. Parmi les civils tués figure le seul gynécologue travaillant encore dans la Ghouta orientale.
Des attentats ont fait aujourd'hui au moins 43 morts et plus de 100 blessés à Bagdad. C'est la deuxième série d'attaques menées en une semaine dans la capitale irakienne. Le groupe État islamique est pointé du doigt. Pour rappel, ces attentats qui visent des lieux publics et des quartiers chiites de Bagdad ont déjà fait plus de 145 morts pour la plupart des civils depuis mercredi. Les États-Unis dirigent une coalition internationale pour combattre les djihadistes en Irak, mais cela n'a tout de même pas permis au gouvernement de Haider al-Abadi de garantir la sécurité dans la capitale.
Les autorités israéliennes vont libérer début juin Meir Ettinger, une figure de la mouvance radicale juive détenue sans procès depuis août 2015 comme un inspirateur présumé de violence contre les Palestiniens ou des chrétiens. C'est ce que rapporte l'agence France-Presse citant l'association Omenou qui assure sa défense. Les autorités israéliennes n'ont appliqué la mesure de détention administrative à des extrémistes juifs qu'en de très rares occasions au cours des 10 dernières années, alors qu'elle l'emploie fréquemment contre les Palestiniens.
L'Iran a une occasion unique de relancer son économie après l'allègement des sanctions internationales, même si de difficiles réformes sont nécessaires, notamment dans le secteur bancaire, a affirmé le numéro 2 du FMI ce mardi. Après des années d'embargo, l'Iran a obtenu un allègement partiel des sanctions économiques occidentales en échange d'une mise au pas de son programme nucléaire controversé. Cela a été rendu possible par la signature d'un accord en juillet 2015 avec les grandes puissances. accord qui est entré en vigueur en janvier dernier.
Et nous revenons sur la remise en liberté immédiate des militants anti-esclavagistes mauritaniens Biram Daoud Abeid et Ibrahim Ould Bilal.
Nous sommes sortis grâce aux fruits de la résistance. Une résistance à toutes ces manœuvres. Une résistance à l'arrestation arbitraire, à l'emprisonnement injuste, aux persécutions dans la prison, aux privations de tous les droits, à la tentative par ce service de renseignement de disloquer l'Iran alors que nous sommes à l'intérieur de la prison. Ces tentatives de retourner en seul ces indicateurs, nous considérons que c'est une victoire déterminante qu'il y a à remporter contre le pouvoir dictatorial, raciste et esclavagiste de Mohamed Abdelaziz. Et nous sommes maintenant en devoir de penser et de croire que ces dirigeants sont les fers de lance de la lutte pour la libération de la Mauritanie, du peuple mauritanien, de la tyrannie, de l'injustice, du racisme et de l'esclavage.
Voilà, c'était Biram Daoud Abeid, joint à Nouakchott à sa sortie de prison. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Tout de suite, un coup d'œil sur l'économie avec John Linden.
En Guinée-Conakry, la semaine du numérique a été lancée ce mardi 17 mai à l'occasion de la Journée internationale des télécommunications. Objectif visé, promouvoir les nouvelles technologies comme levier d'action pour un développement durable. Plus de 500 membres des délégations africaines et internationales sont réunis jusqu'à demain à Yaoundé, la capitale camerounaise, dans le cadre de la Conférence économique internationale sur les opportunités d'investissement au Cameroun. À l'initiative du gouvernement, cette conférence a pour thème « Investir au Cameroun, terre d'attractivité ». Elle a pour objectif de promouvoir les opportunités d'investissement et s'inscrit plus largement dans la vision du Cameroun d'être un pays émergent à l'horizon 2035. En Côte d'Ivoire, la course pour la succession en juillet prochain de Jean Kakou Diagou à la présidence de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire est lancée. Pour l'heure, deux candidats sont sur la liste. Il s'agit de Alain Kouadio, vice-président du patronat, fondateur du groupe Kedan, et Jean-Marie Aka, lui aussi vice-président de la CGCI et fondateur de la CIPRA. Certaines sources indiquent qu'un consensus pourrait être trouvé pour éviter une guerre fratricide au sein du patronat ivoirien.
Place au sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
Football, tour de cadrage de la Coupe de la Confédération.
Quoique battu 2-1 au stade olympique de Gabès en Tunisie par le stade gabésien en match retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, eh bien le tout-puissant Mazembe se qualifie pour la phase de poule à la faveur de leur victoire 1-0 à l'aller. Merveille, Bopé Bokadi a inscrit l'unique et précieux but de Mazembe à la 70e minute de jeu. Youssef Fouzi sur pénalty et Ahmed Hosni avaient marqué pour les Tunisiens. Buteur à l'aller, Jonathan Boligimpangi a été expulsé à la 76e minute. Félicitations donc au Corbeau à suivre ce soir. L'autre rencontre, l'Espérance de Tunis qui accueille le Mouloudia Olympique de Béjaïa.
Autre rencontre demain ?
Le stade malien de Bamako en déplacement chez le FUS de Rabat après le match nul 0-0 à l'aller. La Sagrada Esperanza qui accueille les Young Africans de Tanzanie. Le Medeama du Ghana contre les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Le Cap Cap Marrakech contre Al Merher du Soudan. Misrel Makassa d'Égypte contre Al Ahly de Tripoli. Et puis le CF Mounana, le club gabonais contre l'Étoile du Sahel.
Dopage, coup de filet dans l'athlétisme marocain.
La police marocaine a arrêté des athlètes et d'autres personnes soupçonnées d'impliquer dans un large réseau de dopage dans le cadre d'une plainte de la Fédération marocaine d'athlétisme. Des médias marocains ont fait état ce mardi de l'arrestation d'un athlète marocain résident en Italie et qui aurait fourni des produits dopants à d'autres athlètes marocains. Selon le quotidien Al Sabah, 8 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire, dont un militaire.
Et enfin la NBA, championnat de basket nord-américain.
Oklahoma City a poursuivi son excellent parcours en play-off de NBA en s'imposant chez le champion en titre Golden State, 108-102 pour le premier match de la finale de la Conférence Ouest. Le Thunder, après avoir éliminé San Antonio en demi-finale, a marqué les esprits en renversant la rencontre en deuxième période, notamment grâce à un homme, Russell Westbrook, auteur de 27 points, 12 passes décisives. Grâce à lui et Kevin Durant, 26 points, Oklahoma City a réussi à faire son retard. Le deuxième match de cette série, qui se joue au meilleur de 7 rencontres, est prévu ce mercredi à Oakland.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, Morgane Guériac et Chérubin Gabi Dorsil. Place au dossier du jour. Première escale, le Nigeria.
Le gouvernement a entamé hier des discussions avec les centrales syndicales opposées à la hausse de 67% du prix de l'essence à la pompe. Les syndicats ont prévenu que si ces négociations échouent, le pays sera paralysé demain par une grève illimitée. Quelle est l'atmosphère dans la capitale économique ? Idriss Fall a joint Akandi Elupeju, professeur à l'université de Lagos.
Comme d'habitude, vous savez, Lagos est une ville où les gens sont préoccupés par les effets économiques de toute action prise par quiconque. Alors, on discute, mais avec de doubles doutes, parce que les gens veulent vendre, veulent aller faire business, et ils veulent aussi savoir ce qui va se passer demain.
Il y avait des pénuries d'essence à Lagos.
Présentement, ce n'est pas comme avant. Le prix de vente est maintenant à 145 au lieu de 86. Il y a des stations qui vont mettre au-dessous de ça, disons 120 naira. C'est là on a une longue queue encore. Mais où le carburant est vendu à 145, les gens en achètent, pas tellement de queue quoi.
Est-ce que le gouvernement peut reculer et ramener le prix à 86 naira?
Moi je ne pense pas, parce que ce qui préoccupe, ou bien aussi qui devrait préoccuper le syndicat des travailleurs, c'est même avant l'augmentation des prix de carburant, ils demandaient un salaire minimum de 56 000, contrairement aux 18 000 naira qui étaient fixés. Alors la stratégie du syndicat, c'est de faire asseoir le gouvernement pour qu'ils en discutent aussi l'augmentation des salaires. J'ai appris que le gouvernement avait déjà proposé 45 000. Alors à partir de là, je pense qu'il y aura une discussion qui devrait apaiser les nerfs. Mais le président des syndicats, ici, disait qu'il voudrait simplement savoir si après cette discussion, le gouvernement garantit qu'il n'y aura plus d'augmentation de prix de carburant.
Le cours du pétrole est à la baisse. Est-ce que l'État peut se payer le luxe d'augmenter les salaires maintenant?
La subvention que donnait le gouvernement aux revendeurs de pétrole, ça ne bouchait pas le trou que le gouvernement voulait boucher et ça tombait dans la poche des fraudeurs. Alors le gouvernement se demande maintenant, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux augmenter le salaire des fonctionnaires que de verser cette somme dans la poche de quelques-uns qui s'enrichissent et qui détournent ce même produit vers les pays étrangers qui voisinent du Nigeria. L'augmentation des salaires payera mieux au gouvernement que de subventionner la vente de pétrole.
En 2012, un autre gouvernement avait essayé de supprimer la subvention, mais oui, les gens s'étaient révoltés, non?
Voilà, et la différence c'est qu'à ce moment, le prix du baril était à 100 dollars et les gens ne voyaient pas pourquoi il devrait augmenter. Mais cette fois-ci, de 28 jusqu'à 40 et quelques maintenant, il y a une grande différence. Si le bénéfice au moment où le pétrole était vendu à 100 dollars, si c'était reversé dans l'économie, et au lieu des détriments dont on parle maintenant, je pense qu'on n'aura même pas besoin de parler d'augmentation ou bien de réduction des prix de baril.
Akandi Elupeju, professeur à l'université de Lagos au Nigeria.
Parlons de la lutte contre la corruption au Cameroun. Une dizaine de personnes ont été arrêtées, dont des responsables administratifs et des dirigeants de projets. Elles sont accusées d'avoir détourné les fonds destinés à indemniser des personnes déplacées par la construction du port en eau profonde de Kribi et du barrage de Bankim. Reportage à Yaoundé de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka.
Parmi les 14 personnes arrêtées depuis le 1er mai et envoyées à la prison centrale de Kondenge à Yaoundé, figure Joseph André Eyebe Ayebe, sous-préfet de Bangante dans l'ouest du Cameroun. Il a été arrêté et son bureau scellé à peine un mois après sa nomination. Joseph André Eyebe Ayebe et ses 13 complices sont accusés d'avoir détourné 9 millions de dollars destinés pour indemniser la population déplacée avant la construction du pont en eau profonde de Kribi et le barrage de Bankim. Étienne Dika, un des responsables au ministère de la Justice, explique.
Si effectivement on trouve qu'ils ont soit dérobé de l'argent, ils ont détourné de l'argent, ils ont été actifs dans la corruption, peu importe les autres raisons qui vont venir, ils doivent quand même rendre des comptes. Bon, maintenant, il peut y avoir des règlements de comptes politiques, mais nous pensons quand même qu'il est bon que les Camerounais changent d'attitude. Avant, c'était eux qui réclamaient la transparence. Le fait que les gens puissent passer devant la justice et rendre compte de leur gestion peut faire éclater la vérité.
Le Cameroun a entamé la lutte contre la corruption en 2008. Parmi les personnes arrêtées figurent Inoni Ephrem, ancien premier ministre, Marafa Hamidou Yaya, ancien ministre d'État chargé de l'administration territoriale, Uben Olangena Awono, ancien ministre de la Santé, et beaucoup d'autres ministres et responsables des entreprises parapubliques. Depuis son arrestation, Marafa dit qu'il est victime pour avoir contesté la longévité de Paul Biya au pouvoir. Étienne Hamann, un des proches de Marafa, partage cet avis.
Les gens pensent réellement que, parmi lesquels les administrateurs, que l'opération Epervier est une opération à connotation politique. Sinon, comment expliquer que on en parle beaucoup dans les médias, les gens sont déférés dans les tribunaux, mais que la corruption ne s'est jamais aussi bien portée qu'en ce moment au Cameroun.
Animom Mondio, communicateur du principal parti de l'opposition, SDF, demande à la justice d'être transparent.
Cameroonians are asking that these money.
Le Cameroun a besoin de cet argent pour construire les hôpitaux, les routes, les écoles et les infrastructures électriques.
And electricity, that is what Cameroonians want.
Mais l'État dit que les procédures judiciaires pour rapatrier les fonds stockés dans les banques étrangères sont longues et difficiles. Moki, Edwin Kinzuka, pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam. Libération de Biram Daoud Abeid et Brahim Ould Bilal en Mauritanie. Les militants anti-esclavage ont été reçus par les cris de joie de milliers de militants à leur sortie de prison à Nouakchott ce mardi, sur ordre de la Cour suprême. La police a lancé des gaz lacrymogènes pour tenter de contenir la foule de militants surexcités. Vers 4h30, alors que les deux militants sortaient tout juste de prison, Nathalie Barge était en ligne avec un membre de l'IRA, le conseiller de Biram, Ahmadi Ould Dabous.
Les gardes sont là, tout est en place maintenant, on attend la sortie. Donc il y a des milliers et des milliers de militants qui sont venus de partout, de l'intérieur du pays, mais aussi de Nouakchott, de tous les quartiers de Nouakchott. Il y a une ambiance folle, des tam-tams, des sabars, etc., etc., du folklore, des banderoles, et une pléthore de journalistes, de télé, de radio, de sites internet. Tout le monde est là, c'est vraiment la fête. Il vient de sortir. Quel moment, quel c'est grand. Oh là là, indescriptible. C'est un moment historique que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, la sortie des militants de l'Iran avec leurs avocats, avec la garde, c'est une ambiance. Les militants, on ne peut pas les contrôler. C'est difficile. Aujourd'hui, la victoire est grandiose. Les gardes sont débordés. On demande aux gens de rester calmes. Et ça, c'est le début d'une autre aventure qui commence. Merci à la communauté internationale qui nous a soutenus. Merci aux militants d'Iran. Merci aux militants d'Iran. Et merci aux sympathisants. Merci à tout le monde. Et indescriptible. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que vous ne m'entendez pas. Parce que c'est une situation, c'est un moment qu'on ne peut pas contrôler. C'est une ambiance folle. On peut dire que la prison a été envahie par les militants. Moi, je suis sorti pour me faire entendre. Ça, c'est les gaz lacrymogènes que les gardes sont en train de lancer sur les militants pour les disperser. Parce qu'ils sont devenus incontrôlables. Brahim, je vois Brahim à l'air, soulevé par les militants d'Iran, Mauritanie. Et ils sont en train de saluer la foule. que c'est extraordinaire la victoire des hommes qui se sont sacrifiés pour ce combat. Des hommes qui se sont sacrifiés pour ce combat. Des hommes qui se sont sacrifiés pour ce combat.
Ahmadi Ould Dabous, membre de l'IRA en Mauritanie.
Haïti n'est pas membre de l'Union africaine. Clarification apportée par la présidence de l'Union en réaction aux affirmations de plusieurs médias selon lesquelles l'admission d'Haïti à l'Union allait être formalisée lors du prochain sommet de l'Organisation panafricaine. En réalité, seuls les États africains peuvent adhérer en qualité de membre effectif, comme le stipule l'acte constitutif de l'UA. Haïti maintiendra donc son statut d'observateur. Eric Manirakiza a joint à Addis Abeba en Éthiopie le porte-parole de la présidence, Jacob Eno Eben.
C'est une information erronée. Nous ne connaissons pas la source de cette information. D'ailleurs, il faut vous dire que le prochain sommet de l'Union africaine n'aura pas lieu à Lilongwe à Malawi. Le prochain sommet de l'Union africaine aura lieu en Kigali au Rwanda en juillet, donc disons dans 2 mois. L'admission ou bien l'admissibilité de Haïti comme pays, ce n'est pas vraiment vrai.
Est-ce que Haïti aurait adressé une demande quelconque à l'Union africaine pour devenir membre?
L'Haïti a eu à participer dans un certain nombre de sommets de l'Union africaine et ils ont mis les vœux de devenir membre. Mais il y a une procédure qui est claire là-dessus, en termes de genre de pays, État peuvent être membre de l'Union africaine et quel pays, surtout les pays non africains qui ont le droit de demander le statut d'observateur. Donc l'Haïti est qualifié d'être parmi les pays observateurs selon le statut et non État membre, parce que c'est clair quel type de pays peuvent être membres de l'Union africaine. Quitte à ce qu'il y a un amendement dans l'acte constitutif, et s'il y a un amendement dans l'acte constitutif, il faut une ratification de tous les 54 membres. Néanmoins, il faut dire aussi que l'Haïti, comme d'autres pays dans la diaspora, a une très bonne relation avec l'Union africaine. L'Union africaine va jusqu'à avoir un département qui est spécialisé pour faciliter l'interaction entre les citoyens des organisations de la société civile et aussi les citoyens africains dans la diaspora.
Donc vous confirmez que Haïti a le statut d'observateur maintenant à l'Union africaine?
Oui, je peux le dire. Tout État membre qui ne sont pas africains ont le droit de demander et avoir, suivant la procédure, pour avoir le statut d'observateur de l'Union africaine, mais pas.
Vous parlez de l'acte constitutif, l'article 29, qui détermine justement l'admission au sein de l'Union africaine. Quelles sont ses conditions?
Selon l'article 29, alinéa 1, c'est non. Tout État africain peut, à tout moment après entrée en vigueur du présent acte, notifier au président ou, dans le cas actuel, présidente de la Commission, son intention d'adhérer au présent acte et d'être admis comme membre de l'Union.
Jacob Eno Eben, joint au siège de l'Union africaine à Addis Abeba.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débats. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, à la console Souleymane Tarawalé. Présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Bien sûr, on maintient la conversation sur Facebook. Dites-nous ce qui domine l'actualité chez vous. Partagez vos impressions. Si vous avez des photos, envoyez-les. Posez des questions et nous y répondrons dans nos programmes interactifs. Et n'oubliez surtout pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24. Et je vous signale qu'à 19h temps universel, nous aurons un programme interactif sur la Guinée.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.